accent d'Europe, Laurent Berthoud.
I started going through the bridge, then I see someone lying on the ground, but I keep going and seeing like 3 to 4 people in the ground, like people crying, shouting.
Bonjour à tous. Devant le Parlement britannique, les mêmes récits d'horreur qu'il y a 12 ans après les attentats commis dans le métro de la ville. Les Londoniens, les Britanniques et les Européens sont de nouveau sous le choc d'une attaque terroriste. Elle a visé cette fois-ci le cœur de la plus vieille démocratie, une cible emblématique du Royaume-Uni et des victimes britanniques, françaises, européennes. Marie Billon, vous êtes notre correspondante à Londres, bonjour.
Bonjour Laurent.
Alors ce mardi, les Britanniques sont choqués, tristes, mais ils ne veulent pas baisser la tête.
Oui, effectivement, les Londoniens ont tenu à reprendre leur vie normale. Aujourd'hui, ils sont allés au travail, ils ont pris le métro, ils ont pris le bus, avec un air un petit peu plus vigilant, un air un petit peu plus triste. Mais c'était important de continuer à faire sa vie tout à fait normalement. C'est Theresa May, la Première Ministre, qui l'a dit hier soir lors de son allocution télévisée, qu'il était important de continuer comme avant. Elle a notamment dit que le Parlement, c'est un symbole, que le Parlement devait reprendre ses travaux aujourd'hui. Le Parlement, c'est bien sûr le symbole de la démocratie, mais c'est le symbole de la démocratie qui a été attaqué hier par cet assaillant et qui a arrêté son travail pendant justement tout cet après-midi jusqu'au soir. Et donc c'était important que les travaux reprennent normalement ce matin. Alors ils ont commencé par une minute de silence aussi qui s'est tenue à Scotland Yard. Et après ça, c'était business as usual, comme on dit, avec un petit peu plus de tristesse, avec une pensée évidemment pour les victimes. Mais l'important était vraiment de faire comme si rien ne s'était passé pour montrer que cette attaque ne brisera pas le moral des Britanniques, comme l'attaque il y a 12 ans dans les métros et les bus de Londres n'a pas cassé le moral des Britanniques.
Marie Billon à Londres.
Quand je te parlais de l'Europe qui s'effondre, je te parlais de moi. Quand je te parlais de l'Europe qui s'effondre,
à 60 ans, sa santé n'est pas des plus brillantes, malgré une belle carrière. Officiellement née le 25 mars 1957 avec le traité de Rome, l'Europe est aujourd'hui en proie à des questionnements et des interrogations sur son avenir. Confrontée à une grave crise de confiance, ébranlée par l'arrivée massive de réfugiés. Europe, la fin, point d'interrogation, c'est même le titre du hors-série du magazine Courrier International, publié en partenariat avec RFI. Virginie Lepetit est chef d'édition Courrier. Frédéric Lebel l'a rencontré pour évoquer quelques-uns des sujets au sommaire.
On a retenu une belle enquête, une jeune journaliste néerlandaise de l'hebdomadaire des Groene Amsterdammer, je ne sais pas si je prononce bien.
Des Groene Amsterdammer.
Ah oui, c'est mieux. S'est immergée pendant 4 mois dans la vie des institutions européennes à Bruxelles. Elle en a sorti un article intitulé « Bruxelles, ton univers impitoyable, à la fois drôle et angoissant » et qui répond à cette question « Bruxelles est-elle une bulle coupée du monde ?»
Et la réponse est oui. De toute évidence, oui, Bruxelles est une bulle coupée du monde. Alors le côté drôle, c'est qu'elle décrit un Erasmus pour adultes qui travaillent. Le côté moins drôle, c'est une prison pour expats. Mais dans tous les cas, ce sont des gens qui vivent en vase clos complètement et qui ont tous le même profil et ça pose réellement des problèmes.
Oui, le premier problème, c'est que dans cet univers très homogène, très cultivé, polyglotte, on ne comprend pas que quelqu'un puisse émettre une critique sur l'Europe.
Non, c'est un dogme. Elle décrit quasiment une religion, en fait, puisque tous ces gens sont issus des mêmes écoles et ont les mêmes parcours. Et l'Union européenne, l'Europe, est réellement leur religion. Et on n'imagine même pas une vie sans l'Union européenne. Et ça, c'est parmi les eurocrates, enfin les gens qui travaillent, et également les politiciens.
Et puis, par exemple, aucun député européen ne s'est rendu au Royaume-Uni avant le référendum sur le Brexit.
Non, il n'en voyait visiblement pas l'utilité et personne ne croyait que cela allait arriver. Ça a été un coup de massue et c'est ce qu'elle décrit puisqu'elle y est en fait quelques semaines après ce référendum et elle dit que tout le monde a été abasourdi par les résultats, personne ne s'y attendait.
Et en fait, leur meilleure défense, ils disent, quand tu es face à un eurosceptique, la meilleure manière de réagir, c'est de l'ignorer.
Tout à fait. Ce qu'elle décrit, c'est des gens qui sont sourds et aveugles, qui ne veulent même pas entendre, à un moment elle le dit, que Nigel Farage, donc le leader de l'UKIP, hein, ce parti eurosceptique britannique, est un bon orateur et qu'il peut être audible et qu'il peut convaincre les foules. Mais ça, c'est quelque chose que les eurocrates de Bruxelles refusent totalement d'entendre. Et comme ils ne sont qu'entre eux, le problème c'est ça, c'est que la contradiction n'existe pas finalement. Elle n'est que technique.
C'est presque une secte.
Quasiment, oui, on pourrait dire ça comme ça. Une secte qui travaille ensemble, mange ensemble, fait la fête ensemble et qui finalement ne voit rien d'autre que cette bulle européenne.
Et d'ailleurs, les bâtiments sont faits pour faire vivre cette secte, hein, puisqu'on trouve tout sur place.
On trouve tout sur place. Alors, elle décrit des bâtiments dans lesquels il y a des banques, dans lesquels il y a des salles de sport, mais pas de piscine, précise-t-elle, des blanchisseries, on peut se restaurer, on peut...
Il y a même un supermarché dans un parking.
Exactement. Tout est possible, en fait, dans un rayon de 100 mètres à peu près. C'est ça qui est assez étonnant.
La journaliste, au bout de son enquête, en fait, fait un petit peu le constat d'une Europe bloquée.
Tout à fait, une Europe bloquée, donc parce qu'elle est aveugle, sourde et qu'elle ne veut pas entendre les critiques, mais qui est bloquée aussi dans ses propres contradictions, c'est-à-dire que elle n'ose plus prendre de décisions qui soient un petit peu audacieuses par peur de contrarier les électeurs de tel et tel pays. Et puis on est là aussi pour leur rappeler que attention, il ne faut pas vexer tel ou tel gouvernement. Donc elle se retrouve velléitaire et finalement à ne légiférer que sur des points de détail et à ne pas prendre les décisions qui s'imposent.
Alors, dans ce hors-série de courrier international, on a aussi sélectionné deux articles. L'un pro-européen de l'espagnol El País Semanal et puis l'autre assez critique de l'Irish Times. On commence par le positif. Il y a au moins 5 bonnes raisons de se réjouir d'appartenir à l'Union européenne, nous dit El País.
Oui, El País Semanal, qui est donc le supplément hebdomadaire d'El País. Alors, cite évidemment Erasmus, hein, c'est la première chose qui vient à l'esprit, mais c'est surtout le prétexte pour proposer un parcours en partant de Grenade, un parcours dans l'Europe et dans l'Europe qui fonctionne concrètement. Donc, il cite effectivement Erasmus, mais il cite évidemment le commerce et en partant de l'exemple d'une entreprise qui est une coopérative qui produit des asperges. Et c'est très, très intéressant de voir comment elle a pu se construire grâce à l'Europe et comment elle peut écouler ses produits en Europe. Ensuite, on passe par les frontières, on suit en quelque sorte ces asperges et on en arrive à quelque chose de très intéressant qui est la justice et notamment la justice pour les travailleurs en Europe. Et ce papier cite l'exemple d'un sarde, Giovanni Maria Soggiu, j'espère qu'à mon tour je le prononce correctement, qui lui s'est battu dans les années 60 en Allemagne pour plus d'équité dans les salaires entre Européens et il a gagné. Et je trouve que c'est très intéressant.
Oui, pour que les travailleurs immigrés de l'Union européenne soient payés comme les Allemands. Et c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui a fait reconnaître ça.
Exactement. Et il a terminé sa vie, ce sarde, sur le sol allemand. Il a élevé ses enfants sur le sol allemand et en ayant gagné le droit de travailler et surtout d'être payé comme les Allemands.
Et en plein débat européen sur les travailleurs détachés, ça fait du bien d'entendre ça.
Oui, ça donne un petit peu d'optimisme.
Alors, on va passer sur un autre article plus grinçant, qui est celui d'un éditorialiste de l'Irish Times, qui lui est quand même très critique et qui nous dit quelles seraient les 6 mesures à adopter pour sauver l'Europe.
Oui, il pratique, alors c'est Fintan O'Toole, qui est un grand éditorialiste de l'Irish Times, et qui pratique un peu le qui aime bien châtie bien, puisqu'il est europhile, mais il n'est pas content de l'Europe qu'il voit là. Et donc, il voudrait déjà qu'elle manifeste un petit peu plus d'humilité, qu'elle reconnaisse ses erreurs et ses dysfonctionnements. Et ensuite, il rentre dans le concret, et le concret, c'est le financier. Et la première chose, c'est d'annuler la dette grecque, d'arrêter d'étrangler la Grèce, selon lui. Ensuite, il s'en prend à l'euro, évidemment, qui est quand même source pour lui de beaucoup d'inégalités entre les pays européens, à l'austérité aussi, et puis ce qui l'intéresse, et c'est là un peu la fin de sa démonstration, c'est de démocratiser davantage l'Europe, et là il s'inspire notamment de DiEM25, le mouvement fondé par Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances grec.
Et là il voudrait qu'on publie intégralement tous les rapports des conseils européens ou des commissions parlementaires pour qu'on puisse un petit peu savoir ce qui se trame en coulisses.
C'est ça, il voudrait de la transparence, des débats beaucoup plus ouverts. Bon, après, qui participerait ? On se pose quand même la question, mais oui, il voudrait que le fonctionnement soit moins opaque.
Pas sûr que ça convainque les eurosceptiques. Et tout cela, bien sûr, est à lire dans Europe, la fin, point d'interrogation, le hors-série de Courrier International. Merci beaucoup Virginie Le Petit.
Merci à vous.
L'est de la Macédoine, l'émigration des jeunes prend des proportions dramatiques alors que la natalité est en berne dans tout le pays. Les villages de montagne se vident et même les petites agglomérations industrielles n'arrivent plus à retenir les candidats à l'exil. Écoutez le reportage de Laurent Gélin à proximité de la frontière bulgare.
La petite ville de Makedonska Kamenitsa a dû autrefois être un centre industriel prospère où les bergers des montagnes s'installaient pour s'embaucher dans les mines toutes proches. Mais depuis la chute de la Yougoslavie, les jeunes partent à Skopje et plus loin encore à l'étranger pour chercher fortune. Dans le village de Moshtitsa, à quelques kilomètres de l'agglomération, tout le monde a déménagé en France. Le vieux mineur Marinko a vu ses amis et les enfants de ces derniers quitter leur maison les uns après les autres.
Ici, il y a au moins 5-6 familles qui ont des parents à l'étranger. Oui, au moins 5, même plus. Ils sont en France, à Paris. Quand je vais là-bas, je les vois tous. Là-bas, il y a une église macédonienne. Ils y vont tous. On se réunit, on boit un petit coup.
Le fils de Marinko est parti, lui aussi, il a travaillé un temps comme vigile à la Tour Eiffel, puis il a ouvert un garage. Les affaires marchent bien, alors les jeunes reviennent rarement, parfois l'été lorsque les enfants sont en vacances. Kata, la seconde femme de Marinko, a sa fille en Italie.
Bah oui, c'est douloureux, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Ici, il n'y a pas de travail. J'ai ma fille, mon gendre, mes petits-enfants qui sont là-bas.
Il est difficile d'obtenir des estimations précises de la population macédonienne. Le recensement prévu en 2011 n'a jamais été organisé et officiellement, le pays compterait 2 millions d'habitants. Mais selon toutes les organisations internationales, le gouvernement n'a jamais pris en compte ce parti vivre à l'étranger. 500 000 personnes auraient ainsi quitté la Macédoine depuis le début des années 1990. La population totale ne dépasserait donc pas 1,5 million d'habitants. Gotse tient une épicerie dans le village de Sasa, sur les hauteurs qui dominent Makedonska Kamenitsa.
Toute la ville travaillait avec la mine. Peu de gens partaient car il y avait du travail ici, des bons salaires. Mais depuis plus de 20 ans, il n'y a plus rien de tout cela. Les salaires se sont effondrés. Les enfants ne veulent plus travailler à la mine. Et il n'y a rien d'autre. Les mines ont changé de propriétaire. Il n'y a pas d'autre entreprise où travailler.
Gotse, la cinquantaine bien tassée et deux copains du même âge, se retrouvent tous les soirs pour boire quelques bières et évoquer le bon vieux temps. Traitse s'est sacrifié pour que son fils puisse aller à l'université, mais ce dernier a préféré lui aussi partir.
À mon époque, on n'avait pas le choix. J'ai été embauché à la mine, le travail était dur. On le faisait dans l'espoir d'une vie meilleure pour nos enfants, pour qu'ils puissent étudier. Mon fils est parti à l'étranger avec deux copains, clandestinement. Durant 15 ans, il a dû se cacher. Et puis, il a eu les papiers. Maintenant, il a une famille en Italie.
Pétard, lui, a la chance d'avoir une bonne retraite de 500 euros par mois.
Ce n'est pas une ville, c'est un village. C'est le plus pauvre des villages. Et les jeunes s'en vont, ils s'enfuient tous. On ne fait plus d'enfants, on ne se marie pas. Il y a peut-être 40 gars qui ont dépassé la quarantaine et qui ne sont toujours pas mariés.
Privatisées à la chute de la Yougoslavie, les mines de Makedonska Kamenica ont changé plusieurs fois de propriétaire pour finalement passer sous pavillon américain. La production n'est plus suffisante pour retenir les jeunes. Alors, pour pouvoir émigrer à l'étranger, beaucoup se sont décidés à prendre le passeport bulgare, généreusement distribué par les autorités de Sofia.
La plupart des gens maintenant ont le passeport bulgare. Il n'y a que moi qui ne l'ai pas pris. Je ne veux pas y aller. Le plus douloureux, c'est de devoir dire que ton père, ta mère, ton grand-père, ton arrière-grand-père étaient bulgares. Ils prennent le passeport pour aller gagner de l'argent parce qu'ici, il n'y a rien.
En Macédoine, le taux de fécondité ne dépasserait pas 1,5 enfants par femme. Insuffisant donc pour assurer le renouvellement des générations. D'autant que l'exode des plus jeunes ne semble pas se ralentir. Ici, comme dans le reste des Balkans, c'est une véritable catastrophe démographique qui se prépare.
Faire baisser le chômage, mais à quel prix ? En Europe, la France reste un mauvais élève, avec un taux de chômage d'environ 10%, mais certains observateurs relèvent que lorsque le chômage baisse, la pauvreté, elle, augmente parfois, car les emplois créés sont précaires et de bas niveau. Pour en parler avec nous, Daniel Vigneron de myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Alors comment se situe la France en Europe en matière de taux de pauvreté ?
L'Institut européen des statistiques Eurostat utilise depuis longtemps un indicateur intitulé « taux de risque de pauvreté ». Il représente la population dont les revenus disponibles sont inférieurs à 60% du revenu médian en incluant les transferts sociaux. Un revenu modeste qui du coup fait courir aux intéressés un risque de tomber dans la pauvreté s'ils ne sont pas aidés par leur entourage. Disons-le tout de suite, la France est plutôt bien placée à cet égard puisqu'elle occupe dans l'Union la 6e position sur 28 avec un taux de risque de pauvreté de 13,6% en 2015. Deux pays nordiques et les Pays-Bas font mieux, ainsi que deux pays de l'Est, la Slovaquie et la République tchèque, champions européens avec un taux inférieur à 10%.
Alors depuis 10 ans, est-ce que ce risque de pauvreté progresse ?
Pour l'ensemble de l'Union, le taux est passé de 16,5% en 2005 à 17,3% en 2015. C'est en Allemagne que la progression du risque de pauvreté est la plus significative. Or, c'est bien en Allemagne que le taux de chômage a le plus diminué.
Ce qui accrédite la thèse « moins de chômeurs, plus de pauvres ».
Oui, mais il faut dire tout de suite que cette corrélation ne s'observe qu'en Allemagne. Beaucoup voient dans ce phénomène une conséquence des réformes libérales menées sous le chancelier Schröder au début des années 2000. Des réformes qui ont durci les conditions de versement des allocations chômage et créé des emplois d'insertion très mal payés comme les mini-jobs. Pas étonnant dans ces conditions que le taux de risque de pauvreté est quasiment doublé depuis 10 ans outre-Rhin pour les titulaires d'un emploi.
Est-ce que cela remet en cause les politiques libérales en matière de marché du travail ?
Non, on ne peut pas généraliser car les politiques libérales menées au Royaume-Uni et en Suède n'ont pas produit ces effets. Outre-Manche, on observe depuis 2009 une baisse substantielle du taux de chômage sans augmentation du nombre de travailleurs pauvres. De surcroît, le nombre de chômeurs britanniques menacés de pauvreté a fortement décru. En Suède, on constate même une diminution des travailleurs pauvres, mais à l'inverse, il y a davantage de chômeurs pauvres.
Globalement, Daniel, les chômeurs sont plus précarisés qu'auparavant ?
Oui, c'est un phénomène général. Une grande proportion de chômeurs est en risque de pauvreté. 47% dans l'Union contre 41% il y a 10 ans. Et là encore, l'Allemagne se distingue avec une véritable explosion des chômeurs à risque qui sont passés de 43% à 69%. C'est bien plus qu'au Royaume-Uni où leur taux de risque de pauvreté est revenu à 48% et c'est sans commune mesure avec ce que l'on observe en France, qui, de ce point de vue, fait même mieux que les pays scandinaves, avec 37% de chômeurs à risque. La longue durée de l'indemnisation chômage dans l'Hexagone, ainsi que la relative générosité des allocations, expliquent certainement cette bonne performance française.
Merci Daniel Vigneron, à bientôt sur Accent.
À bientôt Laurent.
Nicolas Benita a assuré la réalisation et la mise en onde de cette édition. On se retrouve demain à 12h40, temps universel, avant de changer d'heure, la semaine prochaine, à l'occasion du passage à la grille d'été. Et tout de suite, on se retrouve, sur rfi.fr, à la page émission.